Il est 10h13, Ma grammaire de l'impossible, c'est une chanson d'Yves Duteil. Ça met la table à la chronique qu'on va faire avec Pierre Lincourt pour l'amour du français. Bonjour Pierre.
Bonjour Annick.
Ça va bien?
Ça va très bien, toi?
Ah, ça va très bien également. Aujourd'hui...
Alors, bon anniversaire en retard.
Ah, merci. Ben, j'avais reçu vos voeux par courriel, merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler, entre autres, d'anglicisme. Puis il y a deux semaines, on avait parlé du mot « événement », la façon de l'écrire avec un accent grave et un accent aigu, c'était accepté. Puis vous vouliez mettre l'accent sur le mot « événement » parce que je pense me souvenir que vous m'avez dit que c'était un anglicisme. Ça se peut-tu?
Ça se peut très bien, exactement. Mais je vais faire une distinction. Le mot « événement », qui s'écrivent avec un accent aigu, accent grave et français.
Oui.
Donc, il y a un sens en français. Ce que ça veut dire en général, c'est que c'est une des étapes de la vie, les événements de la vie, mariage, naissance, la mort. C'est une situation historique dont on se souvient. Les événements du 11 septembre.
Okay.
Les événements de l'année, une rétrospective de l'année, où cette soirée fut un événement dont on se souviendra longtemps. Ça, c'est le sens français d'événement.
OK, mais on l'utilise à toutes les sauces.
Oh là là, oui.
Parce qu'hier, il y avait une journée où les gens pouvaient aller porter leur curriculum vitae, faire des entrevues pour un emploi à la Maison des aînés et alternatives, dont on va parler tout à l'heure.
Oui, exactement.
Et on parlait que c'était un événement. Est-ce que c'est bien employé?
Ben en fait, c'est un anglicisme parce que le mot anglais « event » qui recouvre beaucoup de réalités différentes, dont des spectacles, pièces de théâtre, activités, manifestations. Tout ça, ce sont en anglais « event ». Comme on a le mot « événement » en français, on a tendance à utiliser le mot « événement » pour décrire une activité. On entend la semaine dernière... J'écoutais le bulletin de nouvelles de Radio-Canada, puis j'ai arrêté à 20 le nombre de fois que j'entendais le mot « événement ».
Mais je l'utilise à toutes les sauces,
oui, oui.
Moi de même.
Tout le monde l'utilise. Alors, ce matin, c'est pour rappeler que le mot « événement » n'a pas ce sens-là. Quand on annonce un événement en fin de semaine, une pièce de théâtre, on ne sait pas si ça va être un événement. Un événement, c'est quelque chose dont on va se souvenir.
OK, OK.
Donc, on annonce une activité, une pièce de théâtre, il y a une manifestation. Même les policiers, quand ils font...
ils parlent d'un événement, oui.
Ils ont eu deux événements la nuit dernière. En fait, ce sont des incidents, ce sont des cas, ce sont des situations. Ce n'est pas des événements en tant que tels.
J'ai déjà organisé des événements. Je comprends, ouais, que j'utilisais pas le bon mot. La magie des fêtes, course du Père Noël.
Si on étire le sens d'événement, c'est correct. Parce que c'est un rassemblement populaire qui met en valeur des activités, la magie de Noël, un événement autour de Noël.
OK.
Mais c'est à la limite, là. Si les journalistes annoncent un événement qui va avoir lieu la semaine prochaine, une pièce de théâtre, c'est pas nécessairement un événement, là. C'est une pièce de théâtre, une activité. Alors, simplement, il faut faire attention. Ce matin, on va utiliser le mot anglicisme. Anglicisme a deux sens. C'est un mot anglais qui est utilisé en français ou c'est un mot français qui a un sens, le sens du mot anglais. Et on va en voir un tout à l'heure, un autre anglicisme. Je vais souvent revenir avec des anglicismes dans ma chronique, là.
Maintenant... parce que ça a titillé ma curiosité. Il y a deux semaines, vous m'aviez envoyé le sujet, Pierre, et puis le sujet était l'histoire de Cendrillon.
Ça a l'air un peu étrange de parler d'un mm-hmm. conte de fées dans une chronique linguistique, mais pour le bénéfice des auditeurs, est-ce que tu peux raconter en gros l'histoire de Cendrillon?
Mon Dieu, ça fait longtemps qu'on ne me l'a pas raconté. Bien, Cendrillon, pauvre elle, elle avait une méchante belle-mère avec deux sœurs qui lui faisaient faire le ménage et toutes les tâches ingrates. Et puis, ben, elle rêvait bien, elle aussi, de se marier. Il y avait une possibilité avec le prince dans un beau château et tout ça, mais la belle-mère et les deux sœurs ont tout fait pour l'en empêcher. Et puis, elle a fini avec une fée marraine par se rendre, évidemment, à cette
soirée, c'est, gala,
c'est ça,
ouais,
effectivement, un gala de mariage. Et puis, ben, le prince l'a vu, fait qu'il en est comme tombé amoureux sur le champ. Et puis là, ben, elle s'est sauvée avant minuit. Puis lui, ben, il l'a perdu de vue. Fait qu'il s'est promené un petit peu partout. Elle avait perdu son soulier, sa chaussure, sa pantoufle.
Ouais. Et c'est là où j'interviens.
OK.
Elle a perdu son soulier, où à l'époque, on disait une pantoufle. Une pantoufle, ça avait un autre sens que la pantoufle d'aujourd'hui.
C'est pas une pantoufle.
Un soulier de femme à talons.
Oui.
Donc, elle avait perdu son soulier de verre.
De verre.
Et là, moi, je me souviens, enfin, regardant des bandes dessinées, on voyait le prince qui avait le soulier qui était en verre,
ben oui.
V-E-R-R-E.
Mm-hmm.
Et c'était d'une telle beauté, mais en même temps, je me disais, est-ce que c'est possible
est-ce que c'est confortable?
De marcher avec un soulier fait en verre. L'histoire, c'était ça. Quand je me suis intéressé à la langue, j'ai fouillé le dossier et là, j'ai découvert que le mot « vert » a un homonyme, c'est-à-dire un mot qui se prononce de la même façon, mais qui s'écrit différemment, qui est « V-A-I-R », qui est une fourrure de petit animal. Donc, le soulier et la pantoufle de Cendrillon, c'était en vert, V-A-I-R, et non V-E-R-R-E. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que c'est un conte oral, Cendrillon. Ça a été entendu, traduit en anglais. C'est devenu glass shoe, un soulier de verre, parce qu'on a compris verre comme étant du verre, V-E-R-R-E. Donc, on l'a traduit par glace. Et ensuite, on a retraduit en français en utilisant la traduction de l'anglais.
De l'anglais.
Window.
Erreur donc, historique.
Donc, c'est devenu pantoufle de verre, V-E-R-R-E. D'où les dessins qu'on a vus quand on était jeune, le conte de Cendrillon.
Ben oui, ben oui.
Je te dirais que c'est la probabilité que ce soit ça, mais il y a encore beaucoup de questionnements. Parce que Charles Perrault, celui qui a rédigé les contes, aurait écrit « Pantoufle de verre, V-E-R-R-E ». Alors, donc,
on ne sait plus à quel sens se vouer.
Est-ce qu'il a écrit ça pour susciter une certaine magie, une beauté, parce que le verre est plus beau que la fourrure pour un soulier? Mais c'était ce matin l'objectif de dire que des mots qui quelquefois sont traduits dans une autre langue et qui nous reviennent, mais ils sont déformés.
Ils nous reviennent autrement.
Oui.
En parlant de autrement, j'ai le goût de vous parler de la Maison des aînés et alternatives parce qu'on en parle beaucoup de ce temps-ci dans l'actualité. J'ai vu un commentaire dans Le Soleil où une personne se plaignait de l'utilisation du mot « alternative ».
Oui. Ben, moi, j'ai été surpris. De lire que le nom officiel était Maison des aînés et alternatives. Je savais, on connaît les maisons des aînés qui sont en train d'être inaugurées, enfin, un peu partout au Québec, qui vont être des lieux intéressants pour diverses clientèles, notamment nos aînés qui ont des difficultés, qui sont en perte d'autonomie. C'est extraordinaire comme concept, sauf que le nom, Maison des aînés et alternative. Déjà là, il y a une entorse à la langue française. La langue française aime la symétrie. Maison des aînés et du bonheur. Maison des aînés et des soins prolongés. Maison des aînés et des jeunes. Mais là, on a maison des aînés et alternative. C'est un petit peu cafouillage linguistique. Là,
ouais, un nom plus un adjectif.
On n'a pas la symétrie. Et là, si on oublie ça, qu'est-ce qu'une maison alternative? Je me suis posé la question.
C'est pour les personnes handicapées, je pense. Des personnes handicapées qui ne sont pas nécessairement de l'âge des personnes aînées, mais, si j'ai bien compris.
Moi, l'adjectif alternative, on parle du courant alternatif. On alterne d'un point à un autre. Donc, c'est alternatif. On a aussi, qui présente une affirmation, une vraie et fausse. Donc, une maison alternative, ça ne répond pas vraiment à ces définitions-là du mot alternatif. Parce qu'on a, en français, tu te souviens, on parlait d'école alternative.
Oui, absolument.
Mais en fait, c'est une école alternative, c'est une école axée sur la créativité.
Oui, bien, ça s'adresse à des gens qui ont plus de difficultés, souvent, à l'école, puis l'alternative, dans leur cas, ça va beaucoup mieux en général.
On a aussi la médecine alternative. Oui. Mais alternative, c'est un sens anglais. En français, on devrait parler de médecine douce
oui.
ou de naturelle. Médecine parallèle.
Parallèle? OK.
Oui, oui. On a aussi, on parle d'alternative avec une solution alternative. C'est une solution de rechange. Alternatif, je te l'ai dit, il n'y a pas ce sens-là au départ. On alterne entre deux situations, un pôle, le courant, alternatif, un choix entre deux solutions. Donc, maison alternative, ça ne devrait pas exister comme terminologie. On devrait trouver peut-être une autre façon de les baptiser ou de les appeler.
À ce moment-ci, je pense que, bon, les panneaux, tout a été fait oui. de cette façon-là. Mais avez-vous une idée de comment ça aurait pu être nommé autrement?
Je me suis posé la question. Parce que tu as dit d'entrée de jeu qu'il y avait différentes clientèles qui allaient
oui.
Fréquenter,
oui.
donc des autistes ou des personnes qui ont d'autres problématiques. Alors, il faudrait... Je sais pas, j'ai pas trouvé le terme adéquat, maison des aînés et d'autres clientèles, mais c'est un peu bizarre comme terme. Moi, je garderais maison oui. des aînés, tout simplement.
Maison des aînés.
Oui, oui.
Ouais, ouais. Ben, c'est ça, je me suis posé la question non plus, j'ai pas trouvé de réponse. On va s'arrêter ici. Ça a été fort intéressant, Pierre.
Je vais oui? simplement revenir sur le mot alternative.
Oui.
On l'entend beaucoup comme nom. On dit une alternative.
Oui.
Une alternative, c'est toujours un choix entre deux situations. Il y a une alternative, je me la ferme ou je parle. Une alternative, je continue ou j'arrête. C'est toujours ça. Quand on dit il y a deux alternatives, la personne veut dire qu'il y a deux options, mais en disant deux alternatives, il y aurait quatre options.
OK.
Donc, okay. une alternative, c'est vraiment un choix entre deux situations, un choix obligatoire, là.
OK, parce que quand les gens disent qu'il y a plusieurs alternatives, puis là, ouais. il y a le point 1, le point 2, jusqu'à 6, ouais. plusieurs, non. c'est pas...
Non, il y a plusieurs solutions, plusieurs possibilités, mais une alternative, c'est toujours deux. Ça revient au courant alternatif où on passe de l'un à l'autre, mais une alternative, c'est vraiment un choix entre deux situations, on a deux options devant nous, là.
Ben Pierre, on s'arrête ici.
Dernière oui. question pour toi.
Bon, j'ai de la misère, oui.
Est-ce que moustache est en français ou en anglais?
Moustache?
Oui.
Moustache, ben, je ne me suis jamais posé la question. Là, moi, j'allais dire en français parce que je l'ai toujours vu.
Non, c'est en poil.
C'est très, très bon. Vous avez bien fait de m'interrompre. Dans les semaines à venir, on va parler des dictionnaires, parce que moi, je me pose des questions. Je ne sais plus quel dictionnaire acheter. On parle de Usito, on parle du Larousse, du Petit Robert. Il y a plein de dictionnaires. Je suis un peu embêtée là, pour l'achat d'un dictionnaire. Est-ce qu'il faut acheter encore un dictionnaire? On aura peut-être la réponse dans les prochaines semaines. Merci, Pierre, d'être venu sur l'émission. 10h20.